VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par la RDC. La justice congolaise a annoncé avoir ouvert une enquête que la MONUSCO, la mission de l'ONU au Congo, se propose de soutenir. Deux jours après le décès de Luc Nkulula, un des fondateurs de Lucha, mouvement pro-démocratie basé à Goma, opposé au maintien au pouvoir du président congolais Joseph Kabila au-delà de la fin de son mandat qui a expiré le 20 décembre 2016. Cet activiste anti-Kabila a péri dimanche dans un incendie suspect à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu dans l'est du pays. Mon office a ouvert une enquête qui a débuté hier lundi par une descente sur le lieu de l'incendie, a déclaré Dauphin Mawazo, procureur du tribunal de grande instance de Goma. La sœur cadette et l'oncle de la victime ont déjà été entendus, a ajouté M. Mawazo. L'annonce de l'ouverture d'une enquête par le parquet est une bonne chose, a déclaré à l'AFP Giva Kombi, un des dirigeants de Lucha. Pour sa part, Florence Marshall, porte-parole de la MONUSCO, a souligné que l'ONU est à la disposition de la justice congolaise pour soutenir son enquête. Et RDC toujours, les avocats de l'ex-vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, acquitté de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, plaident aujourd'hui devant la Cour pénale internationale pour sa libération immédiate. Le point avec Idriss Fall.
La chambre d'appel de la CPI a prononcé l'acquittement de Jean-Pierre Bemba vendredi, mais n'avait pas ordonné sa libération. Elle a estimé que la responsabilité de M. Bemba dans les atrocités perpétrées par sa milice en République centrafricaine n'avait pas été prouvée. Peter Hines, avocat de l'ancien chef de guerre congolais, a déclaré que M. Bemba aurait dû être libéré immédiatement. L'audience de ce mardi qualifiée d'urgente a donc été ajoutée à l'ordre du jour de la Cour. Le problème aux yeux des juges était sa condamnation en mars 2017 à 1 an de prison pour subornation de témoins. Un nouveau jugement a été ordonné en appel. On saura donc dans la journée si Jean-Pierre Bemba, après 10 ans de détention, va retrouver la liberté. Son acquittement intervient dans un contexte de tension croissante en RDC à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 23 décembre.
Crise au Cameroun anglophone, Amnesty International dénonce des violations des droits de l'homme dans le pays et parle de populations prises entre deux feux. Selon l'ONG de défense des droits humains basée à Londres, au moins 44 membres des forces de sécurité ont été abattus par des séparatistes armés entre septembre et mai dans les régions anglophones. Par ailleurs, les forces de sécurité camerounaises ont commis des violations des droits humains, dont des homicides illégaux, des exécutions extrajudiciaires, des destructions de biens, des arrestations arbitraires et des actes de torture pendant des opérations militaires, selon Amnesty. À Madagascar, Christian Tsai, le nouveau premier ministre de consensus, a mis en place son gouvernement. Sa principale mission sera d'organiser les élections générales prévues cette année pour sortir le pays de la crise. Marie Benson.
Le nouveau premier ministre malgache a mis en place son gouvernement. Conformément à la décision de la Haute Cour constitutionnelle, la nouvelle équipe restera au pouvoir jusqu'à la tenue des élections prévues d'ici septembre. Depuis plusieurs semaines, l'opposition manifeste pour exiger la démission du président malgache. Les opposants avaient saisi la Haute Cour qui avait donné une semaine au président pour nommer un gouvernement de consensus. Christian Tsai, un ancien haut fonctionnaire international, avait été choisi le 4 juin comme chef de gouvernement. Malgré tout, l'opposition est mobilisée tous les jours sur la place du 13 mai à Antananarivo pour réclamer le départ du président élu fin 2013, mais qui n'a pas encore dit s'il va briguer un second mandat.
En Libye, un double attentat suicide a visé aujourd'hui des forces loyales au maréchal Khalifa Haftar qui mène une offensive contre des milices islamistes et djihadistes à Derna, dans l'est du pays. Il y a eu des victimes, selon un porte-parole de ces forces. Les attaques ont eu lieu ce matin à l'aube dans la région de Chia, au sud de Derna, et des explosions ont été entendues dans toute la ville. Pas de bilan précis jusqu'à présent.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Maintenant, le sommet de Singapour entre le président Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un. Ce sommet sans précédent est un événement positif, a déclaré ce mardi le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov, cité par l'agence RIA Novosti. Pour sa part, l'Union européenne a salué la réunion en la qualifiant d'étape capitale et nécessaire vers une dénucléarisation de la péninsule coréenne. Après le sommet, Donald Trump a annoncé qu'il mettait fin à terme aux exercices militaires conjoints États-Unis-Corée du Sud, décrits comme très provocateurs à l'égard de la Corée du Nord. Le président américain a également assuré que Kim Jong-un s'était engagé, après la signature de leur document commun, à détruire un site de test de missiles. Les discussions ont été honnêtes, directes et productives et Kim Jong-un veut faire ce qui est juste, a souligné le chef de l'exécutif américain lors d'une conférence de presse à Singapour, en précisant avoir abordé la question des droits de l'homme. Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État américain pour les affaires africaines, décrit les défis à venir.
Kim Jong-un est jeune et il voit son pays vraiment pauvre. Plus pauvre que n'importe quel pays africain. Et il ne veut pas vivre encore 40 ans comme chef d'État d'un pays tellement pauvre. Donc, il a besoin des investissements. Et ces investissements peuvent venir seulement de Corée du Sud et de la Chine. Et sans avoir un vrai pays dans la péninsule coréenne, il ne va jamais avoir les richesses qu'il désire. Donc, je suis un peu optimiste que Kim Jong-un va être un peu souple dans ses négociations.
Monsieur Cohen, Idrissa Sedoudia, mais on voit que si la Corée du Nord a pu obtenir ce sommet avec le président Donald Trump, c'est à cause de ses armes nucléaires. Est-ce qu'il va y renoncer comme ça?
Pas tout de suite, mais il peut dire qu'un jour, peut-être en 5 ans, en 10 ans, ce sera terminé. Parce que nous n'avons plus besoin de ces armes, parce que le péninsule sera en paix. Nous aurons des liens commerciaux avec Corée du Sud, avec la Chine, avec la Russie, avec les États-Unis. Donc, je crois qu'il va regarder longtemps. Mais je n'ai pas l'impression qu'il va faire la même chose.
Mais en échange de quoi? Parce que quand on parle de dénucléarisation, les Nord-Coréens parlent du parapluie nucléaire américain et ils parlent aussi de ces forces américaines qui sont dans la région, non seulement pour protéger la Corée du Sud, mais aussi le Japon.
Mais ce que la Corée du Nord peut faire rapidement, c'est de cesser tout essai nucléaire. Cesser tout essai de leurs missiles balistiques qui peuvent arriver en Amérique du Nord. Ça, ils peuvent faire ça tout de suite. Et l'Amérique, en revanche, peut faire aussi peut-être enlever quelques troupes pour commencer. Donc il y a toujours des petits pas. On peut prendre d'ici fin de l'année 2018.
Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État américain pour les affaires africaines, au micro d'Idrissa Sedoudia. Coupe du monde de football en Russie. Nike a refusé de fournir aux joueurs de l'équipe nationale d'Iran des chaussures pour la Coupe du monde de football qui débute le 14 juin. Le géant américain a invoqué le respect des sanctions américaines qui visent la République islamique. Eric Manirakiza.
D'après le porte-parole de Nike, les sanctions applicables à Nike sont en place depuis de nombreuses années et sont inscrites dans la loi. Depuis janvier 2016, l'administration américaine délivrait néanmoins des autorisations à des sociétés américaines pour qu'elles puissent passer des accords commerciaux avec des entités iraniennes. Cependant, le 8 mai dernier, le président Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord nucléaire signé en 2015 entre l'Iran et les grandes puissances internationales. En conséquence, l'administration Trump a rétabli l'intégralité des sanctions imposées à Téhéran. Le site d'information sportive ESPN a indiqué que l'équipementier américain fournissait encore l'équipe nationale iranienne il y a quelques semaines en vertu d'une relation de longue date. L'Iran doit démarrer son tournoi vendredi contre le Maroc dans le groupe B.
Et pour terminer, crise migratoire, l'Aquarius qui croise en Méditerranée chargée de migrants et dont la situation a causé une crispation diplomatique en Europe compte poursuivre ses sauvetages au large de la Libye lorsque les 629 migrants à bord seront arrivés en Espagne. C'est ce qu'a affirmé ce mardi la directrice de l'ONG qui l'affrète. Elle a affirmé agir au nom du droit maritime international et du devoir d'assistance à personne en danger. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.